418-971-1021. Je vous ai vu passer en trottinette un matin pour aller à job. Je vous ai vu passer en moto ce matin pour aller à job. Je vous envie un peu. Moi, j'ai décidé d'ajouter un peu de piquant dans ma vie, les amis. J'ai enlevé le toit ouvrant sur le Wrangler. Puis je vais avoir à vivre avec
fermé,
ça.
Il est fermé, là?
Ben, tu m'as dit qu'il n'y avait plus tantôt.
Ouais,
puis
je mais
pense
pas
que je l'ai pas fermé.
OK, ben ça sera pas si mal, parce que c'était un peu de pluie, et là, j'en ai pas revu depuis.
Mais avoir le pèteux bien 30 tantôt, c'est ça?
Humide. Comme la température d'aujourd'hui.
Humide. Notre chroniqueur chasse-pêche est là, Martin Bourget. Salut, mon ami.
Yes, comment ça va, vous autres?
T'as une belle vue sur mes pieds. Je vais t'organiser ça dans prochaines secondes, là. Mais je suis content de te voir.
Ben ouais, ben moi, je suis content de voir où tu mets ton argent. Je viens de voir tes sneaks passer.
Parce qu'on se voit sur Zoom ou sur Messenger, puis on a une caméra qu'on déplace constamment. Puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont mis ça en dessous du bureau. Fait que tu vois mes sneaks, c'est ça.
Ça se distingue comme idée, pareil, hein?
Ouais. Puis là, je viens de m'apercevoir que pour des techniciens professionnels, le filage qui est en dessous de la table n'a pas été bien wrappé. Hein.
Écoute, ça ressemble à un spaghetti, là.
Ah, tiens!
Hey, je vous vois, c'est pas mal mieux, ça.
Non. Salut!
Et je te mets la vision sur Pascal. Tu vas être pas mal mieux servi que sur mes pieds.
Pas mal,
T'es-tu un homme à pied, toi, ou ben?
Non, vraiment pas. Mais au contraire, je suis quelqu'un qui est un petit peu dédaigneux de ça. Fait qu'il faut que ce soit hyper propre, faut que ce soit pas de com, que ce soit comme bien entretenu.
Ah, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans le merveilleux monde de la chasse et de la pêche, cher ami, ces temps-ci?
Ben là, c'est sûr que pour l'instant, il fait beau, fait que tout le monde est en préparation de la pêche. La truite est déjà ouverte, les gens sont dans le bois en train de faire leur site à pâté pour la chasse à l'ours qui ouvre le 15 mai. Fait que tout le monde est pas mal actif présentement. On vient sortir du dindon, l'ail des bois est sorti, on a commencé à faire de la cueillette. C'est en effervescence. C'est le temps de l'année où est-ce que toutes nos activités fauniques sont en effervescence. Par contre, il y a toujours un enclume qui se cache en quelque part. Hein? Il y a toujours un enclume. La ministre Mété Blanchette est sortie il y a quelques semaines de ça avec une proposition de projet de loi qui, présentement, fait brasser énormément dans l'industrie, qui est le projet de loi 97, qui est un peu un projet de loi qui vient réformer, si on veut, la dynamique de gestion en matière de récolte de bois, principalement, en matière de le régime forestier, moderniser le régime forestier. Jusque-là, on se dit, bon, c'est normal que des ministres, une fois de temps en temps, vont aller réviser un petit peu les protocoles. Là, on ouvre l'enveloppe. Et là, je veux faire bien attention à ce que je veux dire parce que il y a énormément de gens des compagnies forestières qui pourraient être avec nous autres aujourd'hui et qui nous donneraient une opinion complètement différente de ce que je vais dire là. Et j'en suis parfaitement conscient. Ce que je relate là, c'est ce qui est écrit dans l'enveloppe du projet de loi qu'on reçoit et non pas notre opinion. Et on est parfaitement d'accord que les forestières ont non seulement leur place, mais sont nécessaires même à l'entretien des chemins forestiers. Ce que le projet de loi 97 s'apprête à faire, c'est littéralement à donner un tiers des forêts québécoises aux forestières. That's it. En séparant. Oh, c'est énorme. Puis, quand moi je dis un tiers, on me corrige sur le web en me disant, Martin, c'est beaucoup plus qu'un tiers. Je m'explique, dans mon tiers, on divise avec le projet 97 la forêt en trois tiers importants et très importants à comprendre. Le premier tiers étant les zones d'aménagement forestier prioritaires. Dans celle-là, eh bien, ce ne sont que les forestières qui peuvent œuvrer, aller évidemment récolter de matière linéaire. Dans ces zones-là, même s'il y aurait des préoccupations fauniques majeures comme une espèce qui est en difficulté, qui est désignée en voie de disparition ou quoi que ce soit, on n'a pas le droit d'aller faire d'initiatives fauniques ou quoi que ce soit si moindrement ça gêne au travail forestier. Le deuxième type de zone, c'est les zones de conservation, donc des zones tampons dont on a grandement besoin, des zones comme des réserves biologiques, des écosystèmes exceptionnels, des refuges biologiques, des réserves de biodiversité, et etc. C'est hyper important. Et la troisième zone, qui est celle qui fait le plus mal à expliquer, c'est la zone multi-usage. C'est là-dedans que se ramassent tous les autres utilisateurs de la faune. Les ornithologues, les entomologistes, les chasseurs, les pêcheurs, les trappeurs, les cueilleurs, les randonneurs, les villégiateurs, tout ce que tu voudras sont là-dedans. Et les forestières ont aussi le droit de venir récolter dans ces zones multi-usage-là, tant qu'ils font des opérations qu'on va appeler comme étant modérées. Donc, en un claquement de doigts, sans aucune consultation auprès des grandes fédérations, des tables de concertation ou sans aucune considération, et ça, c'est mon opinion personnelle, quand je parle de considération envers les autres utilisateurs de la fonte, y compris les peuples des Premières Nations, parce que, attention, hein, quand je dis les autres utilisateurs de la fonte, ça comprend tout le monde, tous les utilisateurs, aucune consultation, eh bien, on vient de donner un tiers et plus de la forêt québécoise aux compagnies forestières et à leur permettre de venir dans la dernière zone qu'on nous garde, la zone multi-usage, même là récoltée, tout en nous empêchant de mettre des actions sur la biodiversité dans leur secteur, même si c'était nécessaire, par exemple, à sauvegarder une espèce, si moindrement ça vient gêner la récolte de bois. Ça fait mal un peu à lire comme ça.
C'est quoi l'apport des gens des Premières Nations dans nos forêts, hein?
Ben, définitivement, comme n'importe quel chasseur, pêcheur, trappeur, cueilleur, ce sont, s'ils agissent sous ou en respect des plans de gestion qui sont en place, soit gouvernemental ou encore sectoriel de leur côté avec leur nation, ce sont des unités de gestion. Ce sont des gens qui sont sur le terrain, qui occupent le terrain. Comme dans n'importe quelle strate de population, et ça arrive chez les Blancs aussi, il y a toujours des gens qui sont hors la loi et qui vont faire du braconnage. Et on le vit chez les Premières Nations comme on le vit chez les Blancs, chez le reste des Québécois. Mais de manière générale, ils occupent le territoire, ils s'occupent du territoire et ils vont appliquer les plans de gestion. Donc, ils vont être excessivement utiles à la pérennité des cheptels, tant en protection qu'en formation, qu'en relève.
Est-ce que vous les croisez une fois de temps en temps dans le bois, les gens des Premières Nations? Puis si oui, comment ça se passe?
Il y a deux réponses à ça. Puis je dirais que la même réponse s'applique quand je croise des Blancs. Puis là, j'y vais pas, je coupe pas ça en quatre, là, je vous le dis directement. Que ce soit un Blanc ou quelqu'un des Premières Nations qu'on rencontre dans le bois, t'en as certains que tu vas rencontrer puis qui vont être excessivement ouverts même à dire « Ah, écoute, toi, tu chasses le petit gibier, moi, je suis dans ma saison à l'orignal. Mais écoute, chasse dans cette partie-là de forêt, mais je te recommande fortement, dépasse mon chalet, de l'autre bord, tu vas voir, il y a une vieille plantation de pin, il y a beaucoup, beaucoup de gélinottes là-dedans, de perdrix, va chasser là. » T'as l'autre scénario qui arrive où est-ce que tu rencontres ces gens-là puis qui vont faire un blocus complet. Ils vont faire comme « c'est mon territoire et pour ta sécurité, je te recommande de rebrousser chemin. » Mais ça arrive que ce soit un individu des Premières Nations ou encore un Blanc. Ça, je fais pas de différence entre les deux.
Donc, il y a deux gars qui se croisent dans le bois, Martin. Et il y en a un qui dit « Ça, c'est mon territoire et je te recommande pour ta sécurité physique de quitter l'emplacement. » Je veux dire, ça joue fort, là.
Bah, puis ça, c'est pas fort, ça, Yannick. Si tu veux voir qu'est-ce qui est fort, va voir un reportage qui s'appelle « La guerre des bois ». « La guerre des bois », c'est un reportage qui a été diffusé sur le petit écran qui démontre à quel point les chasseurs peuvent être sauvages. Et je te dirais que dans « La guerre des bois », on cible particulièrement les chasseurs québécois blancs, pas non autochtones, pas des Premières Nations. Yannick, ça se tire d'une cache à l'autre, des trous de balles d'un cache.
Aïe, aïe, aïe.
C'est pas juste des menaces, non. Ça s'est passé en territoire libre. Je te dirais que ça tend à s'amenuiser et ça reste beaucoup plus dans le verbal aujourd'hui. Ça passe beaucoup moins au physique. Mais il faut juste comprendre que cette réalité-là, on se la fait souvent rapporter en disant « j'ai rencontré des gens des Premières Nations et il s'est passé telle chose ». Il faut comprendre que les Québécois, émotivement, on en a après les Premières Nations souvent parce qu'ils bénéficient d'accords ancestraux qui leur appartiennent et qu'ils ont le droit de pratiquer. Les Premières Nations ont une certaine vision envers les Québécois pour la même raison. Et c'est le propre de deux clans d'identifier l'autre clan quand ils sont en erreur. Donc, on a beaucoup plus de gens qui nous rapportent ces événements-là avec les Premières Nations. Nécessairement, on est plus de Québécois blancs dans le bois. Donc, ça va arriver plus souvent. Moi, je te dis que c'est à part égale. Si tu tombes sur un individu dans le bois, qu'il soit blanc ou des Premières Nations, il va se passer une chose ou l'autre. Tu vas avoir de la collaboration ou tu vas avoir un mur.
OK. Parce que ce que j'entendais, c'est qu'il y avait beaucoup de vols. Les gens se volaient les caméras entre eux. Ils gâchaient les salines. Ils s'arrangeaient pour que la personne qui a mis ces trucs en place décampe parce qu'ils se disent « Regarde, à chaque fois que je mets quelque chose là, ça se fait tout le temps scraper. Puis je me fais voler mes caméras. » Y en a-tu plus qu'on peut penser du vol dans le bois?
Oui. Oui. Mais je te dirais que quand l'hiver arrive, c'est le pire cauchemar des gens qui ont des chalets en territoire libre sur des bails locatifs ou encore les propriétaires de pourvoiries. Un frigidaire au propane, ça vaut une fortune. Des panneaux solaires, ça vaut une fortune. Et l'hiver, c'est facile avec des traîneaux, de se rendre près des chalets, près des pourvoiries en motoneige, de loader ce qu'on veut, c'est beaucoup moins dur à déplacer, puis de foutre le camp sans laisser de traces. Alors oui, il y a beaucoup de vols, et c'est quand même un fléau qui est important, assez important que dans les dernières années, il y a beaucoup de réseaux de surveillance qui se sont installés sur les différents médias sociaux. De plus en plus de gens vont se munir de batteries pack avec des panneaux solaires, avec des caméras qui au moins vont avoir le temps d'envoyer par les ondes ou d'enregistrer en quelque part les images de ce qui se passe pour avoir des recours avec la police, parce qu'effectivement, ça arrive. Ce que tu parlais, les sites qui vont être saccagés, ça fait longtemps. Ça fait très, très, très longtemps que ça arrive. Je veux dire, on chassait avec des culottes Big Bill puis une chemise à carreaux avec la petite bouteille au kiv dans les mains puis une cigarette à la gueule, que ça se faisait. Les gars allaient pisser ses salines des autres, allaient déféquer sur les blocs de sel des autres, virer les, péter les caméras. C'est tant de temps, c'était pas des caméras, c'était des buck timers. C'était des buck timers avec une corde que quand la patte de l'animal passait dessus, ça faisait une coche dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des buck timers. Ils allaient péter ou arracher les buck timers. Ça, ouais. C'est. Puis je dirais que c'est encore là, c'est pas une question de Première Nation ou encore des Blancs, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est oui, effectivement, c'est quelque chose qui est présent plus en territoire libre qu'en territoire organisé, par exemple.
OK. C'est quoi la capacité des agents fauniques? Parce que, tu sais, mettons, je me prends à Val-Bélair. Tout le monde sait que c'est un bled à Val-Bélair, que c'est un endroit où il y a des gens curieux à Val-Bélair. Moi, c'est une belle ville que j'aime, Val-Bélair, puis je suis bien content d'y rester. Mais si j'ai une problématique avec un gars dans la rue, j'appelle la police arrive puis règle la problématique. Dans le bois, oui. Quand quelqu'un des Premières Nations rencontre un Blanc, puis visiblement, il ne veut pas qu'il soit sur son territoire, c'est quoi la loi, hein?
Bien, là, il faut faire attention parce que l'agent de protection de la faune, en fait, c'est aussi un agent de la paix. Hein? Il est agent de la paix comme le policier l'est. Ce qui les différencie les deux, c'est le mandat dans lequel il lui est permis d'opérer, le mandat qu'il doit appliquer. L'agent de la faune applique la loi sur la mise en valeur et la protection des milieux fauniques. L'agent de police applique le code civil. Alors, ça dépend de l'offense qui est en place. Si l'offense, c'est que tu vois quelqu'un dans le bois en train de braconner, ça, c'est un agent de la faune et il peut opérer, procéder à une arrestation, c'est un agent de la paix.
Okay.
Si c'est quelqu'un qui te confronte avec une arme, l'agent de protection de la faune ne peut rien pour toi, en fait, de venir intervenir si quelqu'un est sur ton... Menacé avec une arme, ils vont intervenir, là, anyway, là. Mais quelqu'un serait sur ton territoire ou t'empêcherait de passer en quelque part ou saccagerait ta demeure ou encore ton chalet, partirait avec ton... Ça, c'est un policier qui peut faire quelque chose pour toi parce que c'est pas dans le mandat, pis c'est pas dans la loi qui est appliquée par l'agent de protection de la faune, malgré que, souvenez-vous toujours, que ça demeure un agent de la paix et que comme un citoyen, il peut faire une arrestation s'il y a des raisons raisonnables de penser qu'une personne est en infraction pour X, Y, Z raisons. Son libre arbitre peut lui permettre de sortir de son cadre si c'est absolument nécessaire. Mais son cadre, c'est la mise en valeur et la protection des milieux fauniques.
Hey, c'est weird, hein? Parce que pour ceux qui n'ont jamais chassé de leur vie, ils peuvent avoir une multitude de questions. Puis, tu sais, quand t'es off the grid, il n'y a plus les cellulaires rentrent plus et tout ça. Comment tu fais pour appeler la police quand il y a un conflit, tu sais, à bord de vouloir les régler toi-même?
Puis un conflit agressif, un conflit armé, un conflit perturbateur.
Tu sais, les deux ont des guns chaque bord, là.
Ah, ben, tu peux pas. À moins qu'au chalet, t'ailles un Starlink ou quelque chose de même. Puis comme vous avez vu, on essaie de faire des entrevues, puis ça marche d'un fois, ça marche pas, là. Sinon, t'es aussi bien d'être chum avec quelqu'un des Premières Nations pour apprendre à faire des signaux de boucan, là.
Hey boy! Puis t'as-tu dit. Vas-y, continue.
C'est comme ça. Ça. Quand on est loin dans le bois, ben, en même temps, nos parents nous diraient, ben, c'est un peu comme avant. Là. Je veux dire, on avait un téléphone à fil à la maison, mais dans le bois, même à côté de la maison, on n'avait pas de cellulaire. Il y avait des pagettes, mais on réglait ça, puis on avisait les autorités par la suite. Hein. Je te dirais que c'est simplement ça. On était loin des technologies, mais pas comme nos parents le géraient avant.
Pierre, il est où? Hein? La dernière fois, on l'a vu, Pierre, il était allé chasser. Oh, il a décidé qu'il s'en allait aux États-Unis, là, vivre, refaire sa vie. On n'entendait plus jamais parler de Pierre.
Ah, puis c'est arrivé. Encore l'année passée, la Sûreté du Québec avait fait des grosses annonces. Il y avait un homme dans une Jeep rouge qui était parti dans un secteur en particulier avec un canot jaune, un gars qui était très, très, très habitué. Puis là, général, il avait l'habitude de partir une semaine dans le bois. Puis on commençait à s'inquiéter parce que ça faisait 3 semaines qu'il était parti dans le bois. Okay. Ça arrive encore aujourd'hui. Ça arrive beaucoup moins. On a beaucoup plus de technologies, des technologies GPS. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'avoir de couverture satellite. Maintenant, là, la montre Garmin que j'ai dans le bras présentement, si je suis en plein milieu de l'île d'Anticosti ou en plein milieu de la Saskatchewan ou de l'Afrique du Sud, j'ouvre ma carte là-dedans et je vois les routes alentour de moi. C'est une montre. Je suis capable de faire un trackback. Donc, je pars par exemple du camp, je ping ma location. Puis quand je suis rendu qu'il faut que je m'en revienne à la maison, je fais track back sur ma montre. Elle me ramène. T'sais, on est rendu avec tellement de technologie que ces incidents-là arrivent beaucoup moins qu'ils arrivaient avant, mais ils arrivent encore. Ils arrivent encore.
Exact. Tu as parlé de territoire libre tantôt, Martin Bourget. C'est quoi territoire libre? Puis qu'est-ce qu'on peut faire sur ce territoire libre-là?
Bon, un territoire libre, à l'inverse, par exemple, des aigles, des CEPAC puis des pourvoiries qui sont gérées, sont sous gestion, ce sont des terres de la couronne sur lesquelles il n'y a pas de bail locatif de corporation de gestion ou de mandat de gestion par une corporation. C'est accessible à l'ensemble du public de manière temporaire, c'est-à-dire d'y aller, d'y camper, de se mouvoir, de pêcher, de chasser, de quoi que ce soit. Et il n'y a pas de droit exclusif en aucun temps en territoire libre, d'où des fois les litiges qui peuvent apparaître. Et c'est un endroit aussi où est-ce que tu peux séjourner de manière plus permanente, mais pour ça, tu dois soumettre ta candidature au tirage au sort dans le cadre de l'allocation des bails de location, donc des bails locatifs. Tu vas louer une parcelle de terrain sur les terres de la couronne, par exemple, dans le réseau ZEC, par exemple, dans ZEC de la Blanche ou en plein milieu du parc des Laurentides, dans quelque part où est-ce que tu as du territoire libre, tu vas louer sur un bail qui va être déterminé en termes de longueur, dépendamment de ce que tu décides de choisir comme produit. Puis là, ben, tu as des réglementations sur le type de bâtiment que tu peux avoir là, le nombre d'étages, la superficie, et etc. Fait que c'est un territoire qui est disponible à tout le monde. Puis en territoire libre, quand tu regardes les terres de la couronne, mais il n'y a personne qui peut aller t'interpeller si tu t'en vas cueillir des bleuets, des fraises ou tu s'en vas à chasse à géminotes ou quoi que ce soit. Mais nécessairement, si tu as une famille qui utilise un certain secteur depuis 20-25 ans, qui, eux, mettent des salines, gèrent leur cheptel d'orignal, etc., ça se peut que tu te fasses apostropher, puis écoute, ici, c'est notre territoire de chasse. En fait, tu aurais le droit de continuer à chasser. C'est ton plein droit parce que c'est le territoire libre. Maintenant, on essaie d'appeler le plus possible à collaboration puis de reconnaître que, écoute, le gars fait 25 ans qu'il travaille le territoire. Si en plus, il est assez gentil pour te dire « va au bord de la coulée là, il y a aussi des orignaux », on essaie d'obtempérer puis d'y aller, mais en fait, tu ne serais pas obligé. Tu pourrais tout simplement continuer à exercer ton droit de chasse, même que la personne qui vient obstruer ton droit de chasse, c'est une loi, hein, tu es protégé dans le privilège qui est la chasse, hein, le droit de pratiquer ces activités-là. L'obstruction au droit de chasse, c'est une faute qui est inscrite dans la loi sur la protection et la mise en valeur des milieux fauniques.
Puis quand ça arrive, c'est quoi, tu portes ton cellulaire puis tu filmes l'altercation puis dans l'espoir de ramener les images vidéo au Québec, à Québec pour informer la police?
Exactement. Ah, c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. Tu n'as pas le choix. Tu essaies de prendre le plus d'informations possible. Après ça, tu fais un constat avec un agent de protection de la faune ou encore un policier. Et la personne, s'il est reconnue coupable, va être reconnue coupable. Ça peut aller jusqu'au criminel s'il y a eu des menaces à ce moment-là. Sinon, ben, si c'est dans la loi sur la mise en valeur et la protection des milieux fauniques, eh bien, c'est une accusation de braconnage qu'il va avoir avec un retrait de droit de chasse, potentiellement de possession d'armes à feu, etc. Mmh. Ça peut aller quand même assez loin.
Mais moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que je cherche les agents de liaison. Je me dis, c'est tellement deux communautés. Mettons que je peux dire communauté dans ce cas-ci.
Oui.
Deux communautés qui semblent fermées dans leurs négociations quand viennent des débordements. Mais pourtant, toi, tu en es un agent de liaison. Il y en a sûrement aussi dans les communautés autochtones. C'est pourquoi est-ce que ça prime pas? Ou encore, ça prime, mais on parle juste du problème en ce moment.
Bien, un petit peu comme dans les discussions religieuses ou dans Canadien contre Nordique, Ford, Chevrolet, puis GM, Ford, Chevrolet, puis Dodge, excuse-moi, on a des partis pris qui sont excessivement solides, qui sont excessivement émotifs. Puis malheureusement, ça a tenu les deux pôles, chacun de leur côté, pendant des décennies et des décennies. Mmh. Oui, Pascal, il y a des agents de liaison, et justement, pas plus tard qu'hier, Kate en a découvert un à qui j'ai écrit, un Jean-Luc, je ne dirais pas son nom complet, qui est dans les Premières Nations, avec qui on jase présentement pour voir de quelle façon, Jean-Luc, on peut se rencontrer toute la gang. Parce que là, on en est rendu à un carrefour où est-ce que si Là, Kate, elle n'aimera pas ça, là, mais je vais dire la tribu des pieds plats, là, les Blancs, là, nous autres. Là, j'ai de la misère à savoir comment je nous identifie. aujourd'hui, on ne peut plus dire un concierge, on ne peut plus dire une personne noire. Là. Nous autres, là, les Québécois blancs et les Premières Nations, on doit s'asseoir ensemble et on doit mettre en place des plans d'action au travers d'une table de concertation pour protéger qu'est-ce qui nous reste de milieu faunique, pour protéger la biodiversité, pour protéger la terre-mère là, pour les générations à venir, parce que des plans de gestion, comme il s'en vient à l'Orignal et au Chevreuil, on a eu des coulées gouvernementales, on sait très bien que le plan de gestion qui s'en vient au Cerf de Virginie, entre autres, veut amoindrir le cheptel au plus bon nombre possible pour diminuer la nécessité de gestion et le risque de récidive de dossiers comme dans le parc Michel-Chartrand à Longueuil, Île-de-Boucherville, Mont-Saint-Bruno. C'est des choses, on devrait être assis avec les Premières Nations, toute la gang ensemble. On devrait avoir la hache de guerre d'un dent, mais pas un envers l'autre. On devrait avoir la hache de guerre d'un dent en avant des arbres à protéger nos forêts, à protéger nos cheptels. Puis oui, pour ceux qui se posent la question, la chasse là-dedans, elle a plus que sa place au niveau de la conservation. La chasse, c'est un moteur de conservation parce que l'être humain, dans l'équilibre de cet écosystème-là, si tu le retires complètement, tu vas faire séchoir complètement des troupeaux d'animaux en forêt. C'est nécessairement, il faut se rassembler. Pascal, tu as raison, des agents de liaison, on en a besoin de beaucoup plus. Il faut que tout le monde baisse la hache de guerre un face à l'autre. C'est urgent, là. Il faut que les Blancs et les Premières Nations s'assoient ensemble puis parlent pour essayer de voir de quelle façon on peut mettre nos efforts en commun. Mmh. On peut peut-être mettre à profit les droits des Premières Nations avec les revendications des Blancs, le pouvoir juridique des Blancs, le pouvoir du nombre des Blancs, mettre ça ensemble puis faire front commun pour protéger ce qui nous reste. Autrement, là, on est en train de l'échapper sur un sifflet de temps.
Exact. Martin Bourget, pour les passionnés de chasse et de pêche, on te suit à quel endroit?
Ben, tout le temps à 21h, le jeudi soir, 21h sur les ondes de Télémag. En même temps, on est sur YouTube et partout sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur le Facebook de Aventure Chasse-Pêche. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube aussi. Si vous voulez voir ce que les gens disent de la loi 97 dont on parlait tantôt, là, allez sur la page Facebook de ACP, donc Aventure Chasse-Pêche. By the way, petit sondage à remplir sur la page, sur le Facebook d'Aventure Chasse-Pêche qui pourrait vous faire gagner des billets pour des shows cet été. Là. Allez remplir ça.
Salut mon ami!
Yes, salut.
Bye-bye.
Ah, bon, il s'en passe-tu des affaires dans le bois dont on n'est pas au courant?
Mais moi, ça me fascine parce que souvent, on va parler, mettons, des communautés autochtones comme étant des gens qui vont vraiment préserver la nature, préserver les cours d'eau, préserver tout ce qui a été donné par sur la terre. Puis au Nunavik, je l'ai vu, c'était la revendication première quant à l'implantation d'une mine qui va se faire par le gouvernement du Québec, qui est en relation aussi avec certaines demandes du gouvernement du Canada. Ouais. Puis tu avais des conseils complets là-dessus. Pour savoir comment est-ce qu'on va protéger notre territoire, pas juste en leur faveur puis pour se nourrir, mais... Puis là, ça change pas la donne, là. Ils sont comme ça, ils font extrêmement attention puis ils le veulent. Fait que je me dis, ces agents-là, autant chez nous avec un Martin Bourget que dans leur communauté, peuvent-tu parler plus fort? Sont-ils capables de parler à leur communauté puis de dire, vos ancêtres, ceux qui ont été ici, ils n'en ont pas pêché 57 poissons par journée parce qu'il y a une façon de préserver aussi. C'est pas juste un passe-temps. Il faut faire attention. Voici ce qui nous... T'sais, il manque-tu un petit peu de discussion à ce moment-là? Parce que je sais que ça brasse là, dans le parc des Laurentides. Là.
Ben oui, puis en même temps, avec des gars qui se croisent dans le bois, les deux sont armés, puis
ça doit brasser de notre bord aussi, là, t'en as là, qui veulent partir avec le plus de chevreuils possible, puis qui se foutent des quotas, là.
Exact, exact. Hey, j'ai des billets pour Cypress Hill. Je sais pas si je vais être capable de te sortir ça ici à l'instant. C'est quoi, quoi?
Donc, tu crois que les chefs et les restaurateurs
c'est pas ça?
Sont...
Voyons donc. Ah, voilà, c'est ça! T'as-tu écouté ça du Cypress Hill, toi?
In and out.
Ah oui?
Ça veut dire que j'ai jamais sélectionné sur Spotify Cypress Hill.
Mais quand ça passe dans un bar, tu
j'écoute.
Danses-tu ou tu
j'aime
danses-tu?
Ça. Ouais, je danse.
OK. Cypress Hill, avec la tournée canadienne Au Cannabis 2025, qui va être en spectacle à l'Agora du Port de Québec le 21 mai prochain. Les invités spéciaux, c'est De La Soul et Farside. Donc, à ne pas manquer, Cypress Hill en concert. Pour vous procurer les billets, c'est sur evenco.ca. J'ai une paire de billets pour vous à l'instant au 418-971-1021. 418-971-1021. Juste m'identifier ce que vous entendez présentement. I go out drinking, oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big four, oh, bro. I got C'est facile, donc envoyez-moi ça par texto 418-971-1021, puis je vais faire un gagnant dans les prochaines secondes. Sinon, dans l'actualité, c'est passé quoi aujourd'hui?
Ça a bougé un petit peu cet après-midi, mais je te dirais c'est plus des faits divers, entre autres le procès des ex-joueurs d'équipe Canada Junior. Ben, les procédures sont encore mises sur pause. C'est ce qu'on apprend de la plume d'Antoine Lacroix dans le Journal de Québec. Vous savez, on en a parlé aussi encore hier, 5 joueurs d'équipe Canada Junior en 2018 qui maintenant sont accusés d'agression sexuelle, qui, bon, se voient partout dans l'actualité, mais là, à l'arrêt pour une durée indéterminée. C'est une situation qui est assez inattendue et ça a forcé la juge Maria Carrossia à prolonger la pause de l'avant-midi. Quand on a voulu revenir, les membres du jury n'étaient pas dans la salle. Il était impossible pour les médias de rapporter ce qui s'est dit non plus sur les discussions de nature juridique qui doivent se tenir au courant encore de l'après-midi et qui ont commencé. Donc, entre les différents avocats impliqués dans les procédures, on a peu d'informations, mais on sait que c'est sur pause pour une durée indéterminée dans le dossier.
J'ai l'impression qu'il va y avoir un arrêt peut-être des procédures. Ça se peut-tu?
C'est une bonne question. C'est vraiment des informations que j'ai dans la dernière heure pour toi.
Hier, je lisais que la victime se fait... celle qui se prétend être victime se fait questionner. Il y a des témoignages qui ont été faits de gens qui étaient complètement à l'extérieur qui disent « Oui, cette femme-là demandait des relations sexuelles avec les gars. Il les traitait de « pussy », donc les traitait de « plot ». Je sais pas. Est-ce qu'ils vont réussir à soulever un doute raisonnable qui va faire en sorte que le juge n'aura pas le choix de les laisser repartir? En même temps, cette jeune femme-là, est-ce que véritablement elle pense qu'elle est victime? Puis les gars disent non, nous, elle voulait. C'est tout des trucs de perception aussi. Là. Ça doit être capoté. Complètement capoté.
On a parlé un petit peu rondement, mais les 80 débardeurs du port de Québec sont de retour au travail. Ça faisait 987 jours d'absence pour ces débardeurs-là. Il y a 10 collègues en moins. Ils ont décidé de quitter le navire pour faire un jeu de mots.
987 jours d'absence?
Oui, pour les débardeurs.
Dans une année, il y a quoi, 365 jours?
Ouais, fais le calcul. On était en lock-out depuis le 15 septembre 2022.
Welcome back.
Ouais, c'est ça. Fait que ça fait un petit bout quand même. Vous allez pouvoir voir que le conflit de travail, par contre, est toutefois pas réglé. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que 10 des 81 débardeurs sont pas de retour, justement parce qu'on dit que les conditions n'avaient pas changé, que pour eux, c'était pas viable. Certains se sont réorientés dans d'autres choses, mais il y aura toutefois une rencontre le 10 juin prochain pour continuer de jaser, mettre à jour les demandes des débardeurs, mais on est de retour au travail. Le Bloc québécois fait jaser parce qu'on va aller tester les résultats dans Terrebonne devant les tribunaux.
Avec raison.
Il y a une photo de l'autobus et de Yves-François Blanchet avec le doigt en l'air qui me fait beaucoup rire par rapport à cet article-là. Mais on va mener une contestation judiciaire parce que les résultats de l'élection dans Terrebonne ont lieu avec plusieurs votes potentiellement cruciaux qui n'ont pas été comptés en raison d'une erreur d'Élection Canada sur des enveloppes de vote par la poste.
Trois fois on a compté, trois fois on intervient à des résultats différents. Finalement, on a dit « Ah, ben c'est elle qui gagne avec un vote ».
De différence.
Mmh.
Moi aussi, j'irais peut-être dans un processus juridique pour ça.
Exact.
Ouais.
OK. Pendant la longue fin de semaine de la fête des Patriotes, Élodie et Colosse vont vous proposer les meilleurs covers pour un BLVD du rock bien spécial. Donc, le boulevard du rock bien spécial en fin de semaine. On va explorer les reprises qui ont marqué l'histoire de la musique, parfois jusqu'à surpasser les versions originales. Et tout ça, c'est grâce à Marlin Chevrolet Buick GMC. C'est votre concessionnaire GM à Sainte-Foy. Du choix du service, une équipe sur qui vous pouvez compter. Donc, surveillez ça en fin de semaine. Élodie et Colosse, deux machines de guerre qui vous poussent de la bonne musique. Pascal, je te souhaite de passer une belle fin de journée. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 18h pour ce qui est de Marceau Soir. Sinon, Denis s'en vient dans les prochaines secondes.
Salut!
Après, Bob Bissonnette, Université. Salut, Pace!
À demain!